écouter, télécharger et partager toutes les émissions du OFF sur www.osmose-radio.fr.
Osmose Radio.
Osmose.
La web radio du OFF.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Osmose dans la couleur des planches. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux performances. Deux femmes, deux seules en scène, deux passions. Une pour Simone de Beauvoir et la seconde, elle sera pour le bleu du ciel et le vol. Bonjour Catherine de Castel, vous avez créé La Famée d'après le texte de Violette Leduc et vous jouez tous les jours à 14h à l'atelier 44. Alors La Famée, en fait, ça retrace la passion et la dépendance de cette écrivaine Violette Leduc pour Simone de Beauvoir qui était son mentor et qui l'obsédera jusqu'à sa mort. C'est un ode au désir et à l'amour qui la dévore, une dépendance incontrôlable se crée, un enchaînement qui mène jusqu'à la démence. Alors sur scène, vous avez placé un buste de mannequin, c'est un objet qui l'attire et qui la déchire. Et cette femme, elle est interprétée par vous, Catherine de Castel, avec grâce et puissance. Vous vous perdez dans le personnage avec tellement de désir et d'engagement que ça en est troublant. Justement, donc ces écrits qu'elle partageait avec Simone de Beauvoir, donc qui était d'une certaine manière un petit peu au courant de ses désirs, mais qui n'était pas complètement avoué. Qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a attiré chez Violette Leduc?
Beaucoup de choses en fait. D'abord sa solitude, même si dans la réalité elle n'était pas si seule que ce qu'elle écrit. La façon dont elle écrit aussi le corps, le désir féminin. À travers toute son œuvre et à travers son œuvre, la façon dont, à partir du moment où elle se pose en enfant illégitime, ce qu'elle était, à chacun de ses amours, aucun de ses amours n'aboutira en fait, parce qu'elle se pose toujours dans cette illégitimité, elle choisit toujours des amours impossibles. Et c'est un peu ce parcours-là qui m'a fascinée. Et puis sa poésie, tout simplement sa langue, en fait. C'est une langue absolument extraordinaire qu'on ne connaît pas assez.
C'est vrai.
On se souvient.
Surtout cette œuvre-là, qui est peu connue du public.
Ceux qui connaissent Violette Leduc se souviennent de La Femme, de La Mie scandaleuse, de Simone de Beauvoir, parce qu'elle était très libre, parce qu'elle a écrit sur son homosexualité, parce qu'elle a écrit sur sa pingrerie, parce qu'elle a écrit sur son marché noir, parce qu'elle a écrit son avortement à 5 mois en 44, je crois. L'avortement en 44, elle l'a écrit un peu plus tard, mais enfin, c'était quand même assez
tôt. Pour l'époque,
controversée. Oui, elle était extrêmement controversée parce qu'elle était très libre, en fait. Et elle était très avant-gardiste dans la forme comme dans le fond de son écriture. Mais elle a une langue qui dépasse complètement sa personne. Elle a une poésie, une beauté. Enfin, c'est une écrivaine vraiment pleine et entière. Et c'est aussi ce que raconte La Famée. C'est-à-dire qu'il y a un peu une double lecture dans La Famée. À la fois, c'est son amour... immodéré pour Simone de Beauvoir qui effectivement est sa protectrice, sa muse, sa correctrice.
C'est ça le pire, c'est qu'elle lit ce qu'elle écrit.
Elle lit, elle corrige aussi La Famée pendant que Violette Leduc l'écrit. Mais c'est aussi parce qu'il y a cet amour que Violette Leduc va réellement devenir une écrivaine. C'est-à-dire que La Famée, c'est son deuxième texte. Il est écrit en 46 et publié en 48. Juste après l'asphyxie. L'asphyxie, c'est... Je ne peux pas dire que c'est un accident de parcours parce que le texte est absolument splendide, mais l'asphyxie naît parce que Maurice Sachs lui dit « J'en ai assez de t'entendre te plaindre en permanence. Prends un papier, un stylo, va sous l'arbre, va sous le pommier et écris, quoi. Et laisse-moi tranquille. »
Dégage-toi de tout ça.
C'est ça. Et elle écrit l'asphyxie comme ça. Elle rencontre de Beauvoir qui tout de suite voit le talent en elle, qui l'aide à publier chez Gallimard. Mais au moment de l'asphyxie, elle n'est pas encore une écrivaine. C'est cet amour pour Simone de Beauvoir qui va faire aussi en sorte qu'elle rentre complètement dans l'écriture. Et je crois que La Famée, c'est le moment où une écrivaine naît. Donc c'est à la fois cet amour, cette passion, effectivement, qui est dévorante et qui restera dévorante jusqu'à la fin de la vie de Violette Leduc. Mais c'est aussi sa naissance d'écrivaine, sa langue, sa poésie... Et c'est ça qui est troublant. D'ailleurs, elle le dit dans le texte. Elle dit devenir exceptionnelle pour la retenir un peu.
Tout à fait. Alors, je vous propose maintenant de saluer Pauline Bayle.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous, vous nous présentez Cloué au sol, un texte de Georges Brandt qui est mis en scène par Gilles David. Et on vous retrouve pendant le Off d'Avignon à 16h20 au théâtre Le Nouveau Ring. Alors Cloué au sol, donc, c'est une pièce de Georges Brandt qui a réussi à créer un monologue très percutant. Donc, il s'agit d'une pilote de chasse qui n'a besoin pour vivre que de deux choses, son tiger et le bleu du ciel, jusqu'au jour où elle tombe enceinte, ce qui perturbe ses ambitions. C'est une guerrière, mais c'est aussi une femme, donc elle accepte d'être mère et elle se retrouve à piloter un drone à distance et peu à peu, elle se fond dans la monotonie du quotidien, ce qui la tuera à petit feu. Le metteur en scène, Gilles David, donc, qui est aussi sociétaire de la Comédie Française, a décidé en fait de la clouer littéralement au sol. Et la comédienne que vous êtes, Pauline Bayle, aurait pu être un petit peu perturbée parce que ça rend l'exercice difficile d'être vraiment dans une position statique pendant une heure et demie. Mais c'est une épreuve que vous relevez avec force et détermination. Vous vous débattez et vous vous raccrochez aux convictions du personnage. Donc je le disais dans Cloué au sol, vous interprétez une femme ambitieuse. Elle est pilote de chasse pour l'US Air Force. Et le rêve de sa vie se retrouve mis de côté parce qu'elle tombe enceinte. Est-ce que perdre le ciel pour fonder une famille, c'est perdre son identité ?
Oui, en tout cas, c'est se délaisser temporairement d'une part de son identité. Mais en fait, c'est grandir. Elle croyait qu'une fois qu'elle serait pilote de chasse, c'était bon, il n'y avait plus rien à voilà, c'est ça, et qu'elle était arrivée là où elle voulait arriver, où elle rêvait d'arriver. Et en fait, elle se rend compte que la vie, c'est plus compliqué que ça, et c'est plus complexe que ça, en fait. Et que ça demande de s'adapter, il y a des imprévus, et on tombe amoureux, et on fait un bébé, et elle est très contente d'avoir cet enfant. Il n'y a aucune amertume là-dedans, et c'est... Enfin, grandir, c'est accepter de devoir ne pas faire les choses exactement comme on aurait voulu qu'elles se passent. Et donc voilà, donc c'est laisser une part de son identité derrière elle, mais pour mieux la retrouver. Enfin, ce qu'elle pense, c'est qu'elle va sincèrement la retrouver.
Oui, c'est juste une
intacte.
Pause.
Voilà, c'est
le
ça.
Le temps
d'avoir un bébé. Ouais.
Alors vous, Catherine de Castel, dans La Famée, le personnage fait preuve d'une grande exigence envers elle-même. Son admiration pour Simone de Beauvoir, on peut dire qu'elle la transporte à la fois entre calme et bouillonnement, et vous allez même jusqu'à la violence.
Oui. Oui, je trouve que le texte de Violette Leduc implique en fait une certaine violence. Il y a une autodestruction assez forte dans cet amour qui n'a pas de répondant en face, qui a même un répondant négatif. Alors même si j'ai ajouté donc des lettres de Simone de Beauvoir à Nelson Algren, dans lesquelles elle parle de Violette Leduc en des termes assez... assez difficile.
Oui, même insultant.
Même insultant, puisqu'elle répète, elle ne l'appelle jamais Violette Leduc, elle l'appelle la femme laide. Et a priori, chaque rendez-vous avec la femme laide est un peu un poids pour Simone de Beauvoir, tout en admirant l'écrivaine et en la soutenant. C'est vrai qu'elle a un rapport à la femme qui était Violette Leduc un peu compliqué. Et bon, ça, évidemment, ce n'est pas dans le texte de La Famée. Et je pense que, enfin, Violette Leduc n'a pas dû entendre ces propos-là, puisque la correspondance de Simone de Beauvoir et de Nelson Algren a été publiée bien après. Mais même dans son texte, Violette Leduc plein de délires où elle tombe dans la boue, ou après elle est dans un restaurant, elle se bat avec les glaces, elle parle d'elle-même avec beaucoup d'autodérision et beaucoup de violence aussi, hein, puisqu'elle dit mes pourritures, ma passivité, elle est assez autodestructrice. Donc je pensais vraiment que sur scène, il fallait aussi aller dans ce sens-là. Pas que, mais avoir une partie, un bout du spectacle qui pouvait représenter ça. Ouais.
De violence. Mmh. Alors, Pauline Bayle, vous sur scène, donc vous êtes mise en scène par Gilles David, qui a voulu illustrer donc, la perte de contrôle tout en vous clouant au sol. C'est vraiment le cas de le dire, parce que vous n'avez qu'une envie, vous, c'est de prendre votre envol, mais vous restez statique. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça, tous les deux, justement, ce statisme ?
Alors, en fait, c'était pas du tout... c'est marrant, ouais, c'est pas du tout... Hein, on n'a pas du tout commencé comme ça. Au départ, Gilles n'avait pas du tout en tête l'idée que cette femme ne, soit immobile. On a commencé à travailler, donc il y a plusieurs endroits dans la pièce, donc on avait matérialisé ces différents endroits au plateau comme une sorte de voilà, là c'est le mall, là c'est chez elle, là c'est... Et en fait, au fur et à mesure où on travaillait, c'est comme si je digérais le texte et le parcours intérieur de la pilote, et que j'avais de moins en moins besoin d'aller à cet endroit-là pour raconter que là elle va chez elle, là elle va au travail, et que ça, c'était à l'intérieur de moi, en fait, que tant que moi j'y allais à l'intérieur, le public, enfin, monsieur, voyager, le spectateur, voilà, c'est ça. Et que du coup, les mouvements auraient été l'illustration un peu
superflu.
Oui, un peu naturaliste, dont on n'avait pas besoin. Et en fait, elle est tellement déterminée, elle est tellement ramassée, concentrée sur ses objectifs que ce qu'on a, le peu de mouvement qui reste, c'est comme ce que ça raconte pas tant. Ce que c'est pas parce que à ce moment-là, elle bouge dans le texte, c'est parce que à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui, une sorte de bouffée d'air où elle arrive à prendre du recul, elle arrive à changer. Mais on a cherché, ouais, un rapport au mouvement qui soit pas dans l'illustration juste ah bah là elle change d'endroit, etc. Parce que ça, c'est l'enfer, le naturalisme. Enfin, ça ferme l'imaginaire.
Complètement, oui.
Voilà.
Et ça fonctionne très bien parce qu'on voyage vraiment avec vous, justement, partout où vous allez.
Cool.
Alors vous, Catherine de Castel, quand on parle de corps, justement, vous passez beaucoup par le corps. Il faut savoir que le sexe est très présent de manière générale dans l'œuvre de Violette Leduc. Ouais. Il y a un érotisme un peu ravageant chez le personnage. Mmh.
Oui, ravageant, ravagé peut-être, c'est son érotisme à elle qui est ravagé probablement. Ben oui, parce que elle est dans une recherche, dans une quête d'amour permanente en fait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup écrit sur le fait qu'elle était une enfant illégitime, fille d'une bonne et d'un fils de famille, début du siècle. Avec tout ce que ça pouvait impliquer d'être fille-mère en 1907 pour sa mère et toute la culpabilité que sa mère a pu faire porter sur elle, sur cet état-là. Et du coup, elle est en permanence dans cette recherche de l'autre, elle est en permanence dans cette recherche de l'amour. Et moins elle y arrive, plus elle est en recherche, moins elle y arrive, plus elle le magnifie, plus ça devient... quelque chose sans limite, et plus son érotisme est bridé et donc existe aussi dans ses textes, en fait.
En parlant d'amour, nous toutes les deux, Pauline Bayle et Catherine de Castel, quand il s'agit d'amour, ces femmes donnent leur trip.
Oui.
Ouais.
Ouais, ouais, c'est pas à moitié, et c'est une radicalité, moi, qui me plaît beaucoup, parce que du coup... j'ai pas vu le spectacle sur Violette Leduc, mais dans Clos au sol, la pilote est jamais traitée, moi je trouve, comme une femme. Elle se trouve être une femme, mais c'est avant tout un être humain qui est habité de choses qui la dépassent et pour lesquelles, au service desquelles elle se met. Et donc du coup, il se trouve que c'est une femme, donc elle tombe enceinte et tout ça, voilà. Mais c'est pas, elle est avant tout décrite comme un être humain qui a envie de se dépasser et qui fera tout pour ça. Et ça me touche beaucoup.
Oui, Violette Leduc, elle est radicale, quoi. Elle est vraiment radicale dans son amour, mais elle est radicale dans tout, en fait. C'est pas que dans son rapport à l'amour, c'est sûr.
Justement, par rapport à la place de la femme, il faut dire que ces deux femmes de tête ont des métiers assez singuliers.
Oui, alors, dans Clos au sol, ouais, la pilote, bah, donc, est pilote de chasse, donc elle conduit des F-16, comme des mirages, quoi. Et c'est, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le top du top, quoi, à l'armée. Mais en fait, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, notamment rencontré un pilote de chasse qui d'ailleurs a fait la préface de l'édition française du texte, ouais. Et qui dit qu'en fait, les pilotes de chasse dans l'armée sont pas du tout sont avant tout des gens qui aiment voler. Et ensuite qui se trouvent à l'armée, donc voilà, qui font la guerre, mais qui sont habités très
par
très fortement,
ciel.
Ouais, par le ciel. Et c'est ça qui les a, parce que je crois que les sensations, moi j'ai jamais conduit de 16, mais je crois que les sensations en vol sont uniques, enfin
oui.
Il y a pas d'équivalent nulle part, même dans l'aviation commerciale, de conduire des Airbus, etc. Je crois que ça n'a absolument rien à voir avec celle qu'on a quand on conduit un F-16 dans le ciel.
Oui, Violette Leduc, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment qu'on puisse en parler vraiment comme un rapport au métier, parce que je ne crois pas qu'elle ait vraiment décidé d'écrire. Je crois pas qu'elle ait décidé d'être écrivaine. Enfin, si, de fait, elle l'a quand même décidé, mais pas dans ce rapport où, comme, quand on est pilote de chasse, il y a un truc qui, on sait que c'est, on fait des études pour, il y a quelque chose qui est
évident,
ou il y a quelque chose qui est un combat pour y arriver, un objectif. Violette Leduc, c'est un peu différent, du coup. Je pense qu'elle a toujours, quand on lit sa biographie, elle a toujours voulu écrire. Elle a toujours écrit, en fait. Puisque pendant la guerre, elle écrivait pour des magazines de mode, notamment. Enfin, elle a toujours été, elle était secrétaire d'édition. Elle a toujours gravité vraiment autour de ça. Mais elle ne se sentait pas légitime d'écrire, d'ailleurs. Elle se nommait pas écrivaine. C'était jusqu'à très tard. Et en plus, ce sentiment était aggravé par le fait que, comme elle était très, très, très avant-gardiste dans ses propos et dans sa poésie, dans la forme, elle a connu un succès public assez tard. C'est-à-dire que, dès son premier texte, la communauté littéraire l'a reconnue tout de suite, que ce soit Sarraute, que ce soit Cocteau, que ce soit Genet, enfin voilà. Mais le public, lui, en 46, en 48, n'était pas forcément prêt à lire ces textes, à lire cette radicalité. Puis ensuite, avec Ravage, où elle a été censurée des 100 premières pages, qui sont maintenant devenues un livre à part entière, qui est Thérèse et Isabelle, où elle raconte son premier amour lesbien
dans un internat
dans les années 30. Et elle le raconte effectivement avec une grande liberté. C'est-à-dire que c'est avant tout une femme libre, plus qu'une femme qui voulait quelque chose. Son succès public, il arrivera dans les années 60 avec La Bâtarde, quand elle a failli avoir le Goncourt. Donc c'est très très tard, et c'est d'ailleurs Simone de Beauvoir qui va financer le fait qu'elle puisse continuer d'écrire, puisque elle va lui donner une rente via Gallimard pour ne pas heurter sa sensibilité, son ego, pendant plus de 15 ans, en fait, jusqu'à son succès public de La Bâtarde en 62. Donc, je ne sais pas s'il y avait cette même volonté. Je crois que c'était au-delà d'elle-même. D'ailleurs, je crois qu'elle en parlait plus que comme une. Elle disait qu'elle s'était un peu psychanalysée à travers ses livres. Je pense que c'était plus une nécessité de, voilà, comme elle dit, se déshabiller sur le trottoir, se décharger de moi-même, se livrer à la phrase, que vraiment d'être écrivaine.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Donc, pour La Famille, qui se joue à 14h à l'Atelier 44, et pour Chloé au Sol, à 16h20 au Théâtre Le Nouveau Ring. Alors, pour terminer, je vous propose de quitter le soleil brûlant d'Avignon pour rejoindre la chaleur ardente d'Italie avec la compagnie Passage, qui nous présente Morte dans un fossé, une pièce de Fausto Paravisino qui est mise en scène par Céline Lambert et qui se joue tous les jours à 16h30 au Pandora. Il s'agit d'une enquête policière qui se déroule en Italie entre Milan et Turin. Alors, un adolescent prénommé Boy découvre une nuit dans un fossé, au milieu d'une route déserte, le cadavre ensanglanté et couvert de bleu d'Elisa Orlando. C'est une jeune fille de son âge qui, au premier abord, d'après les dires de ses parents, de sa mère, est sans histoire. Il s'agira donc de découvrir qui l'a assassinée et pourquoi. Les scènes s'enchaînent, les personnages, en plus de leur dialogue et de leur partition, font les questions, les réponses, et ils passent même par la narration de leur situation, ce qui est assez original. Ce sont tous des personnages très atypiques. Alors on va retrouver le flic, la prostituée à l'accent étranger, le dealer, la mère, le petit ami, le témoin et l'ombre du père. Et ce qui fait toute l'originalité de ce spectacle, c'est l'utilisation de la vidéo. Alors la scène est très épurée, on est à Avignon, on n'a pas le temps. Du coup, les comédiens et la metteuse en scène ont décidé de remplacer le décor par des images qu'ils ont tournées au préalable et qui sont projetées sur un écran. Et donc ces images nous emmènent sur les routes italiennes, dans la maison de la victime ou encore en boîte de nuit. Donc il y a un usage stratégique de la vidéo qui est assez intéressant, parce qu'ici, ils ont vraiment réussi à exploiter tous les pouvoirs justement de ces images en créant à la fois des flashbacks, des jeux avec les cadrages et les plans, donc ce qui crée beaucoup de suspense, ce qui est relativement inhérent au polar. Je vous souhaite un bon festival et à très bientôt.
Merci. Merci.